Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, pas de livre. C'est un peu notre habitude d'interroger quelqu'un qui a écrit quelque chose ou qui expose quelque chose. Nous avons notre invité d'aujourd'hui est un petit peu différent. C'est un intellectuel, à n'en pas douter, puisque de formation il est psychanalyste. Mais cet intellectuel-là, il s'intéresse à la vie collective et parvenu à un certain moment de son existence, eh bien, il s'est intéressé aux associations, aux mouvements sociaux, et en essayant de donner un certain nombre de réponses à certaines questions, mais plus exactement en mettant les mains dans le cambouis et en agissant lui-même à l'intérieur d'une association dont il est le président. L'association s'appelle Sud Babote, et notre invité, c'est Guy Ciblac. Bonjour.
Bonjour, monsieur Vaquier.
Alors, je disais en préambule que vous étiez analyste. Est-ce que, juste une petite question comme ça, est-ce que le fait d'avoir œuvré vis-à-vis des individus dans un cadre qu'on pourrait qualifier de, avec des guillemets, de thérapeutique, est-ce que c'est ça qui vous a guidé vers des formes plus collectives, plus sociales, à un certain moment de votre existence ?
Je ne sais pas si je peux répondre aussi facilement à cette question. On peut la renverser, c'est-à-dire, je trouve peu d'écho dans la manière dont les choses sont pensées en matière politique ou de revendication, peu d'écho de ce qui pourrait être une réflexion sur le fonctionnement psychique, c'est-à-dire comment un humain fonctionne et qu'est-ce qui peut le conduire, dans ses symptômes, à prendre telle ou telle décision ou telle orientation. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Le président des États-Unis est un exemple extraordinaire, mais on pourrait regarder de plus près. Et il y a des comportements qui, du point de vue de la psychopathologie, sont peut-être préoccupants chez nous aussi.
Alors, je disais que vous étiez président d'une association qui s'appelle Sud Babote, donc qui est une association qui agit sur un quartier. Jusque-là, rien de très original. Mais cette association, par ses activités, s'intéresse tout particulièrement au fonctionnement politique de notre société, entre autres choses, on reviendra sur d'autres aspects. Et d'ailleurs, vous avez invité il y a quelques temps pour nous parler de constituante, c'était juste avant l'élection présidentielle. Et j'ai envie de vous demander aujourd'hui, c'est fini le chantier de la constituante ?
Alors, le constat est qu'elle est nécessaire, toujours. La difficulté est de susciter un regain citoyen. La constituante en elle-même est un détail, mais qui dit constituante, dit... Il y a plusieurs manières de réaliser une constituante. Hein. Si on la laisse aux mains des gens en place, elle aurait une certaine forme. L'idée étant que... ce que j'évoquais il y a quelques instants, on ne peut pas rester dans une position critique ou de plainte en répétant éternellement que les choses ne vont pas bien, que ceci, que cela, sans se demander au fond qui est une démarche analytique, c'est-à-dire lorsque quelqu'un vient se plaindre, la première question pour démarrer une analyse, c'est de se demander j'y suis pourquoi dans mon symptôme. Et au fond, on pourrait appliquer ça à la collectivité en général, c'est-à-dire nous y sommes pourquoi dans cette situation dont nous nous plaignons.
Donc, la constituante, bon, avant l'élection présidentielle, on pouvait, ça avait un sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sens est un petit peu décalé, on va dire.
C'est vrai.
Et mais ça ne vous empêche pas de poursuivre votre interrogation. Et là, l'actualité de cette interrogation, c'est le vote. Et vous organisez prochainement,
mercredi prochain,
donc, une série d'ateliers pour essayer de réfléchir sur le vote. Pourquoi ? Est-ce que ce qui s'est passé à l'élection présidentielle vous a... inquiété, interpellé ?
À cette élection, comme sans doute aux autres, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire, il y a des chiffres très, très marquants. Lorsqu'on relève qu'il n'y a que 70 et des poussières pour 100 de gens qui sont inscrits, ça veut dire qu'il y a quand même une frange de la population qui est détournée de l'élection. Et surtout quand on analyse de manière très fine les chiffres de ce que donne notre mode électif, indépendamment de tel ou tel personnage qui est élu.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est très, très préoccupant dans la mesure où, appliqué à la dernière élection, le candidat élu se retrouve avec un pourcentage d'adhésion à son programme qui est assez ridicule lorsqu'on le rapporte aux inscrits et à la population. Hein. C'est, par rapport aux inscrits, c'est moins de 7%. Hein, selon une enquête, alors bon, il faudrait développer
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
Il faudrait développer ça. Mais
parce que quand vous dites ça, tout à coup, on a un choc. Voilà. On se dit, comment, alors qu'on nous bassine en disant que l'homme a été élu avec plus de la moitié des voix, là, vous nous dites 7%.
D'adhésion au programme.
Oui, voilà. Donc, il y a à la fois la participation et en même temps, sur quels critères s'est fait l'adhésion.
Voilà, c'est-à-dire que le vote tel qu'il fonctionne actuellement est un vote réprobateur. On vote contre quelqu'un pour que surtout il ne soit pas élu, ou sur des motivations, parce qu'il est jeune, parce qu'on espère que les choses vont miraculeusement changer, mais pas du tout sur un contenu et sur une idéologie transportée. Si bien qu'au fond, la personne qui est élue, elle est élue pour des motifs X, multiples, mais pour ce qui est de l'adhésion à son programme. Or, quel que soit l'élu, ça pourrait être une autre couleur, il aurait tenu strictement le même discours, c'est-à-dire j'ai été élu avec l'assentiment de la majorité de la population, ce qui est encore plus impressionnant, et donc j'applique les choses. La réalité devient quelquefois plus compliquée, mais ce discours-là est surprenant, d'une honnêteté douteuse quand même.
C'est vrai.
Voilà.
Alors, j'ai vu que vous aviez les chiffres précis.
Oui.
Je crois que ce serait intéressant de les donner pour montrer comment les choses se déclinent dans le vote.
Alors, lorsque les résultats sont donnés le soir des élections, ne sont donnés que les chiffres exprimés. Donc les chiffres exprimés, bien évidemment, c'est 66% et des poussières pour la personne qui est élue. On dit bravo. Bon. Si on ramène ces chiffres aux votants, puis aux inscrits, il y a déjà, on diminue. Par rapport aux inscrits, on est déjà à 43-73. Mais une enquête a été menée, par Public Sénat, enfin ça avait été commandité par Public Sénat, LCP, RFI, Le Point, Le Monde, pour analyser les motivations du vote de la personne qui a été élue. Qu'est-ce qui motivait les gens? Alors, les résultats sont les suivants. Ils ont voté contre le candidat opposé à 43%. Ils espéraient voir un renouvellement politique, c'est-à-dire on enlève les vieux, on met du jeune à la place, 33%. Et pour le programme, 16% seulement. Et puis pour la personnalité, 6%. Et quand on applique ces pourcentages, ça donne un certain nombre de voix. Il suffit de les réappliquer ensuite à la masse des inscrits, etc. Eh bien, ça nous donne, pour une adhésion au programme, 6,99% des inscrits et 4,94% de la population. Je peux vous laisser les chiffres, vous pourrez vérifier.
Ça fait un peu froid, c'est un peu froid dans le dos quand même.
C'est impressionnant, c'est-à-dire que d'un point de vue démocratique, ça pose peut-être pas de questions à beaucoup de personnes. Moi personnellement, je me dis il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait là-dedans. Et donc l'idée n'est pas de revenir sur ces chiffres, mais d'analyser par des ateliers au cours de cette rencontre citoyenne les aspects structuraux du vote. Donc il y aura trois ateliers. On se demandera dans un atelier si le vote est un droit démocratique. Un autre atelier parcourra la question de l'utilité du vote. Mmh. Et puis le troisième, on essaiera de faire un peu l'anatomie de l'abstention.
C'est curieux que vous ne vous posiez pas la question du vote blanc.
Alors, le vote blanc sera inscrit dans les sous-titres,
oui,
évidemment.
D'accord.
Bon, il y a les grands titres, et puis ensuite, pour que les ateliers soient un peu animés, on a mis un guide qui, effectivement, le vote blanc serait comptabilisé.
Ça changerait
bien
déjà pas mal.
Évidemment, ça changerait beaucoup de choses. D'abord, ça amènerait peut-être les gens à s'exprimer en disant « je ne veux ni de l'un ni de l'autre, mais je vote ». Mais les choses étant structurées de la façon dont elles le sont, pas d'autre moyen. Mmh. Et donc, il y a un certain nombre de personnes. J'ai pris contact avec Antoine Payon, qui ne pouvait pas venir, mais qui a développé aussi, notamment son dernier ouvrage, où... il dit « voter, c'est abdiquer » en 2017.
Oui, c'est clair.
Et un autre ouvrage qui nous a servi d'ailleurs à construire un peu la trame de ces ateliers, d'Antoine Bueno. Son ouvrage s'intitule « Nos votes ». Et c'est un type qui a été chargé de mission au Sénat et qui fut la plume de Bérou en 2007. Donc on ne peut pas le taxer d'être une espèce de révolutionnaire absolu.
Dangereux gauchiste.
Mais il a une analyse de la dynamique de la structure du vote très, très particulière. Et on livrera un certain nombre d'informations autour de la loi. Par exemple, notre président actuel de la Chambre des députés a proposé une loi visant à rendre obligatoire le vote.
Comme en Suisse.
Oui, sauf que M. Bueno... Et donc, il y avait un système d'amende. M. Bueno est allé visiter un peu sa pratique du vote pendant qu'il était député. Et bon, j'ai plus le chiffre en tête, mais si on lui appliquait le système, il aurait une amende de plus de 60 000 euros.
Voilà. Lui-même ne voulait pas.
Et donc, et là, j'ai cru entendre ces derniers jours qu'il remettait ça en chantier. C'est-à-dire... dans l'idée des politiques actuelles, ça leur pose un problème, un problème de légitimité quand même. Hein, quand il y a aussi peu de pourcentage d'adhésion, quelle est la légitimité de l'élu ? Donc, ils savent très bien qu'il y a un problème de représentativité à tous les niveaux, catégoriels, etc. Mais les idées qu'ils amènent sont des idées qui ne déstabilisent pas trop le système. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des aménagements qui mettent un cataplasme sur la jambe de bois, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose.
Mais alors, les Républicains, un grand thème, vont vous dire, mais est-ce que vous contestez le vote ? Est-ce que vous ne voulez plus qu'on vote ?
Non, mais d'abord, ils oublient qu'un droit n'est pas une obligation. Alors, par exemple, on a le droit de grève, mais on ne fait pas grève tous les jours.
C'est vrai.
Bon, il y a d'autres exemples comme ça. Et qu'au fond, c'est aussi une manifestation particulière. Mais il n'y a, de notre côté, aucune tentative de militantisme ou d'amener les gens qui vont travailler aux ateliers à les induire à telle ou telle position. C'est simplement réfléchir sur le sens du vote. Est-ce qu'on choisit effectivement son représentant ou pas ? Est-ce qu'on choisit son programme ? Est-ce qu'on a un moyen de contrôle ? Enfin, tous ces aspects qui rendent l'élection quasiment légère. C'est-à-dire, on va déposer dans l'urne, mais on signe un chèque en blanc, voilà.
Ce qui quand même voudrait dire que peut-être dans le vote, il y a des formes de manipulation, qu'elles soient volontaires ou involontaires. Est-ce que les circonstances dans lesquelles ça se produit ne conduisent pas les électeurs à se laisser un peu manipuler. Je prends l'exemple du deuxième tour de l'élection. Le fait qu'il y ait eu, comme parmi les deux principaux sélectionnés, le Front National, pour parler clair, et M. Macron, dont il est difficile de lui accorder une étiquette, puisqu'il est à lui-même son propre mouvement. de fait, vu la diabolisation, je ne dis pas que c'est un tort, mais bon, c'est un fait, et la diabolisation du Front National, nécessairement, les gens se sont trouvés enclins à voter pour celui qu'il y avait en face. Donc il y a eu une sorte de manipulation un peu des médias, d'une certaine façon.
Oui, les médias nationaux sont effectivement un peu responsables aussi de ce qui se passe dans la transmission de l'information et la construction de l'opinion. Créer un épouvantail, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On peut dire même, enfin, les politiciens plus avertis pourraient s'exprimer plus facilement, mais on a créé au fond cet épouvantail parce que ça rend service, effectivement, un deuxième tour où on aligne un Front National, voire un premier tour quand même. Ça permet de manipuler énormément de monde.
On l'a vu en 2002.
Bien sûr.
Et on l'a revu là.
Oui. Or, Anticorps, par exemple, je crois, s'est créé au moment de cette élection, opposant Chirac à Le Pen.
À Le Pen, oui. Alors, rappelons un peu ce qu'est Anticorps. C'est donc une organisation qui agit contre la corruption.
Contre la corruption, c'est-à-dire qui essaie de mener des dossiers où il y a corruption jusqu'au niveau justice.
Au niveau tribunal.
Pourquoi ? Parce que ce qui était insupportable, c'est de ne pas voter pour l'un, obligé à voter pour quelqu'un qui, sur le plan de la manipulation et de la corruption, avait déjà beaucoup d'histoires qui lui étaient reprochées.
Alors, dans votre action, il y a aussi l'idée que le vote n'est pas suffisant, qu'au fond, il y a toute une série d'autres possibilités de s'exprimer, et que l'échéance du vote n'est pas suffisante non plus, c'est-à-dire que s'exprimer tous les 5 ans et puis après ne plus rien faire, ça ne caractérise pas en tout cas une démocratie.
Non, dans la mesure où, tel que ça fonctionne actuellement, les gens vont voter et ensuite quoi ? Alors d'abord, pourquoi votent-ils ? On sait très bien qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, etc. On pourrait imaginer que plutôt qu'un vote, on désigne une fonction d'exécution. C'est-à-dire que l'élaboration d'un choix, d'une décision, pourrait se faire en amont. Et ensuite, on détermine par le vote quelle est la personne qu'on juge la plus apte pour mettre en œuvre ce qui a été décidé. Non, ce n'est pas du tout ce qui se fait. On délègue un pouvoir très important à quelqu'un, qui ensuite va s'arranger avec sa petite équipe, va faire sa cuisine personnelle, mais sans contrôle. La pratique actuelle d'ailleurs, mais qui n'est pas récente, puisque ça s'est vu pour les législatures précédentes, quand on a une majorité que l'on tient bien, vous faites passer toutes les lois. Or, les lois ne sont pas d'initiative parlementaire pour la plupart. Les quelques lois d'initiative parlementaire sont fabriqués par l'administration et le gouvernement et on les refile à quelques-uns parce que comme ça, ça fait bien. Mais nous sommes gouvernés par une petite élite très resserrée et par l'administration. Les finances, c'est Bercy qui construit. L'histoire d'ailleurs des 5 euros...
Pour l'APL.
L'APL, c'est une mesure qui était dans les tiroirs de Bercy, il y en a d'autres comme ça, et qu'ils essaient de refiler à tout nouveau gouvernement. Ils le prennent ou ne prennent pas, mais une mesure qui véritablement serait déstabilisante ne sera jamais aboutie dans la mesure où Bercy va construire la preuve mathématique que ce n'est pas faisable, etc. Mais bon. Personne ne croit à la capacité de l'intelligence collective pour mûrir une décision et un choix. Et tant qu'on n'arrivera pas à déplacer cette masse-là, le vote, ça devrait être un vote, au fond, d'adhésion à un consensuel construit au préalable, ce qui n'est pas le cas en fait.
Mais ça, c'est une question de vie démocratique. Il y a un problème d'information, de formation.
Oui, et peut-être aussi, c'est là où les gens sont un peu responsables, de confort. Après, on peut se plaindre, hein, mais on peut faire taire la plainte en donnant l'exemple des routiers. On prend une mesure. Bon, ils sont très dangereux, les routiers, parce que s'ils se mettent à bloquer, ils ont un pouvoir de nuisance très important. Et donc, voilà, on fait un petit cadeau et ça s'arrête. Mais la démocratie, c'est pas ça, c'est pas cet esprit-là.
En faisant ces ateliers, au fond, qu'espérez-vous ? Faire mûrir une prise de conscience des gens qui y participent ?
Ouvrir le débat public de la même façon qu'on a prévu de faire un quartier en débat. Bon, on en sort de la préparation avec d'autres associations sur prendre soin de sa ville, la propreté. Ce sont des débats publics qui ne sont pas organisés par nos responsables. Donc, nous les organisons. On peut les inviter s'ils veulent.
Et j'allais vous demander, vous invitez des hommes politiques ?
On a invité des élus sur les deux années passées. Le maire de Juvignac, le maire de Terrans.
Ceux-là, c'est ceux qui sont venus ?
Oui.
Oui.
On ne cherche pas à être, comment dire, dans un rapport conflictuel avec les gens trop proches. Mmh. Ce n'est pas du tout notre idée, mais on travaille avec les élus locaux sur un mode qui est celui-ci. C'est-à-dire, on discute et on va essayer de réfléchir ensemble. Mais ce qui peut nous être renvoyé, c'est une association avec quelques membres et puis des gens associés. Est-ce qu'elle est représentative ? C'est tout le problème aussi. On a exactement la même question à se poser. Nous sommes représentatifs de quoi ?
De vous-même, ce qui n'est déjà pas si mal.
Voilà, mais c'est une question compliquée.
En tout cas, le principe de poser les questions est absolument nécessaire. Donc, je rappelle les trois ateliers. Donc, le vote est-il un droit démocratique ? Quelle est l'utilité du vote et anatomie d'absus significatif, me direz-vous. Anatomie de l'abstention. Donc, ça aura lieu le mercredi 18 octobre de 17h45 à 20h15.
17h30.
Sur le document, mettons 30, et ça aura lieu à la Gazette Café. Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Quelques petites nouvelles. Sachez que nous sommes actuellement, le coup d'envoi vient d'être donné, de la campagne nationale Ensemble pour un pays de lecteurs. Alors, c'est un programme gouvernemental, bien entendu, et c'est le ministre de la Culture qui a lancé cette campagne. C'est un peu une ancienne que essayer de faire lire les enfants. Chaque ministre a sa petite campagne. Je voudrais simplement vous donner un chiffre pour montrer que c'est peut-être pas la question de lire est importante, mais peut-être la question de l'alphabétisation. Des enfants qui viennent de quartiers dits en difficulté, à 6 ans, ont un potentiel de 200 mots à leur disposition. Et des enfants qui viennent de quartiers plus classiques, eh bien, ils ont 1400 mots à leur disposition. Peut-être que là, ça explique peut-être quelques difficultés de lecture pour certains, de manière assez claire. Et donc, les associations se mobilisent pour cette action, en particulier ici à Montpellier, la boutique d'écriture. En tout cas, c'est peut-être aussi lire, c'est aussi une façon de s'émanciper, c'est une façon d'aborder la connaissance. Et donc, c'est peut-être utile pour élaborer son vote le moment venu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous-même travaillez auprès des enfants dans le cadre de votre association.
Oui. Nous organisons deux choses dans cette direction. La première, c'est l'animation du Square Planchon deux fois par an. Donc, il y en a une qui vient d'avoir lieu le 29 septembre, l'autre aura lieu le vendredi de la Comédie du Livre. Nous pouvons privatiser le square Planchon et nous faisons là des ateliers de lecture, d'écriture réservés aux enfants. La première a eu lieu il y a 6-7 mois, était orientée vers les écoles du quartier. Mais là, pour septembre, nous avions des gens des zones d'enseignement prioritaire,
d'accord,
d'éducation prioritaire.
D'éducation prioritaire.
Et nous avons contact avec les gens de ces zones et nous allons organiser, participer à des ateliers qui sont sur une semaine au mois de mars. Et eux viendront au Soir Planchon, au moment de la comédie du livre.
Rappelons que le Soir Planchon, c'est juste en face de la gare, donc dans le quartier dont, voilà, sur lequel agit notre association.
L'autre activité, l'autre action, nous avons lancé ce que nous appelions au début un concours, c'est devenu un parcours d'écriture, où les classes s'inscrivent et font travailler leurs élèves à la constitution d'un objet livre, poésie, conte, petite nouvelle. C'est lancé sur toute la métropole et il y a la possibilité dans l'association d'un accompagnement des enseignants tout au long de l'année pour arriver à produire cette écriture collective.
Très bien. Et alors, bien écoutez, je voulais vous signaler également là une dernière information. C'est les Amis du Monde Diplomatique qui, jeudi prochain, jeudi 19, vont recevoir un conférencier, Jean-Baptiste Millet, qui a écrit un livre sur l'or rouge, c'est-à-dire la production industrielle et mondialisée de la tomate. On n'imagine pas que ce légume si courant fait l'objet de telles spéculations. C'est un livre d'enquête, d'investigation qui montre à quel point la tomate, le jus de tomate, la sauce tomate est un véritable enjeu. Voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ce livre puisque je recevrai probablement M. Millet à cette occasion. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Gulliver et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.